pour l'enregistrement. Nous venons de lire Ésaïe 45, 6, 7, Éphésiens 1, 11 et Romains chapitre 8, versets 18 à 39. Nous sommes dans une église assez importante dans le Nord-Ouest, aux États-Unis. Et dans une grande église, comme dans une petite église, il y a des gens qui vivent, qui passent par des périodes de souffrance. Je pense à Naomi, fille de missionnaire, chrétienne, très engagée, une belle jeune fille, 22 ans, aspire à se marier, aspire à avoir des enfants, et vient d'apprendre qu'elle est atteinte d'une sclérose en plaques, et que le pronostic est très, très mauvais. Pourtant, elle continue à sourire, et dans sa souffrance, elle dit, elle sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis il y a aussi Jonah, un petit garçon de 10 ans, excellent élève. Il aime le Seigneur, il aime chanter les louanges de Dieu. Il y a quelques mois, tout a basculé, atteint d'une leucémie foudroyante. Jonah souffre beaucoup, le traitement est brutal. Il a placé toute sa confiance en Dieu et il comprend à 10 ans ce verset, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ici, dans cette paroisse, il y a des gens qui sont touchés par la maladie. Il y a aussi beaucoup de sortes de détresse, même dans notre texte. C'est pourquoi il faut toujours lire un texte dans son contexte. Et dans notre contexte, il est question de persécution, de détresse, d'angoisse, la faim, la misère, le danger. Et je suis sûr que quand des choses comme ça nous arrivent, la question qui revient souvent, c'est pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant? Pourquoi ces circonstances? Pourquoi cette tragédie? Pourquoi ces difficultés? Eh bien, dans ce chapitre 8 de l'épître de Paul aux Romains, l'apôtre nous donne des informations précieuses concernant justement ces questionnements. Il parle des souffrances du temps présent qui ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Ça nous permet de placer nos souffrances présentes dans une perspective éternelle. Elles sont comme une goutte dans un océan. Et puis il parle de ce grand consolateur qui est le Saint-Esprit. Il dit, on ne sait pas comment prier, mais le Saint-Esprit nous aide dans ce qui appelle notre infirmité. Il intercède pour nous auprès du Père et il le fait avec des soupirs inexprimables. Ça veut dire que dans le malheur, nous ne sommes jamais tout seuls. Vous savez que la solitude est le mal de notre siècle. Ironiquement, nous n'avons jamais été aussi connectés avec les tweeting, les Twitter, tout ça, le Facebook, l'Internet. Et malgré toutes ces connexions, on n'a jamais été une société aussi dans la solitude. Et imaginez quand vous êtes déjà dans la solitude et faire face à des situations de détresse, comme je viens de le mentionner. Mais là, ce texte nous dit que nous ne sommes jamais seuls, parce que le Saint-Esprit, il est là pour supplier Dieu en notre faveur. Il est comme un avocat qui défend notre cause devant Dieu avec une ferveur telle que ça ne peut pas se traduire. Mes amis, le Saint-Esprit, c'est le plus puissant des avocats qui puisse être, et il défend notre cause. Donc nous ne sommes pas seuls dans la tragédie. Mais l'apôtre Paul arrive au verset 28 avec une autre forme de réconfort. Quand il nous dit, nous savons du reste que toute chose, et dans le contexte des difficultés, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous remarquerez que l'apôtre Paul ne dit pas, nous espérons que toute chose concourt au bien. Vous remarquerez qu'il ne dit pas sûrement, toutes choses vont concourir au bien. Non, il dit, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un qui sait que malgré les épreuves et les tragédies de la vie, Dieu va faire sortir de tout cela du bien. C'est une promesse de Dieu, et vous savez comme moi que Dieu tient toujours ses promesses. Littéralement, nous pourrions dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, on pourrait traduire par toutes choses travaillent ensemble pour notre bien. Ou encore, toutes choses coopèrent ensemble pour notre bien. Toutes choses œuvrent ensemble, forment un concert, une harmonie les unes avec les autres pour notre bien. Et cette déclaration de Paul nous mène à nous poser un certain nombre de questions. Et la première question, c'est, et elle revient souvent, Dieu est-il la cause de tout ce qui nous arrive, soit en bien, soit en mal? Nous touchons ici à la providence de Dieu. Le petit catéchiste de Westminster répond à la question, quelles sont les œuvres de la providence? Et il répond, les œuvres de la providence de Dieu consistent à conserver et à gouverner d'une manière très sainte, très sage et toute puissante chaque créature et chacun de ses actes. Ce qui vient à dire que Dieu gouverne et contrôle tous les événements de ce monde. Voltaire disait que Dieu avait créé ce monde, puis qu'il l'avait laissé à lui-même, sans intervenir, sans l'œuvre de la Providence, tout comme un horloger crée une horloge et la laisse fonctionner d'elle-même. Mais l'Écriture affirme le contraire. Dieu n'a pas seulement créé ce monde, créé cet univers. À chaque instant, il se penche sur l'ouvrage de ses mains. Notre destinée ne se trouve pas dans les astres. Elle ne se trouve pas dans l'horoscope ou même entre les mains de nos chefs de gouvernement. Notre destinée est entre les mains de Dieu qui nous a créés et qui est la cause de tout ce qui arrive sans exception. Regardez ce que dit Ésaïe 45, 6, 7 que nous avons lu tout à l'heure. Que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors de moi il n'y a pas de Dieu, je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Éphésiens 1, 11. Dieu opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Dieu opère toutes choses. Jésus a dit, ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, ils ne tombent pas un à terre sans la volonté de mon Père, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Alors Dieu est la cause de tout ce qui arrive ici-bas. Il n'y a pas d'accident pour Dieu, il n'y a pas de surprise pour Dieu, il n'y a pas d'imprévu. Et cela concerne autant le bien que le mal. Alors la tendance la plus courante serait de dire « le bien vient de Dieu, le mal vient du diable ». Nous déduisons que Dieu n'a rien à voir avec le mal, avec nos malheurs et nos tragédies. Récemment, je vous avais sans doute entendu parler de cette tragédie dans l'état de Connecticut, la ville de Newport, avec ce massacre de ces jeunes écoliers par un jeune déboussolé. Et c'est vrai que lorsqu'on voit les choses pareilles, on dit mais où est Dieu dans tout cela? Alors d'abord, je dirais, on l'a chassé du lieu public, on l'a chassé de l'école. Alors est-ce qu'on devrait toujours poser la question « Où est Dieu ?» quand on n'a fait que le chasser pendant des mois et des mois. On n'en veut pas dans les écoles. Mais ceci dit, ce n'est pas la réponse à la question. Mais on parle aussi des ouragans qui ont dévasté la côte est américaine ou des typhons qui s'abattent sur les pays asiatiques. Alors on dit « Il faut que ce soit le diable. Il faut que ce soit le diable ou alors le hasard ou la malchance. » Vous savez ce que cela signifie, si c'est vrai? Cela signifierait que le diable, le hasard ou la malchance auraient un tel pouvoir qu'ils pourraient agir contre la volonté même de Dieu. Ce qui impliquerait que Dieu n'est pas suprêmement en contrôle de tout ce qui arrive dans le monde. Ce qui impliquerait que si le diable ou le hasard étaient les rivaux ou égales en force et en volonté avec Dieu, il n'y aurait aucune garantie de la victoire finale sur le mal, sur le péché, et donc aucune assurance de notre salut. Mais gloire à Dieu, il est en contrôle de tout, il domine non seulement notre univers, mais encore toutes les forces de l'univers, y inclut les forces du mal, le diable lui-même. Dieu a préordonné tout ce qui arrive ici-bas, et il est en parfait contrôle de tout, que ce soit le bien ou que ce soit le mal. Alors je devine qu'il y a peut-être, sans doute, une autre question qui brûle sur vos lèvres. Dieu est-il l'auteur du mal, l'auteur du péché? Et là, la réponse est clairement non. Dieu n'est pas l'auteur du péché, il n'est pas l'auteur du mal, il a donné à sa créature une liberté vraie, et l'homme, dans cette liberté, a fait un très mauvais choix, il a choisi le mal. Le mal fait-il partie du plan de Dieu? Oui. Dieu n'est pas l'auteur du péché et du mal, mais dans sa grande sagesse et dans sa souveraineté absolue, dans un plan, un planning éternel, il a prévu, préordonné le mal comme le bien. Pourquoi? Je l'ignore. Personne n'a la réponse à ce mystère, mais ça reste un fait. Actes chapitre 2, verset 23. L'apôtre Pierre, parlant de Jésus, accuse ses bourreaux. « Cet homme, vous l'avez livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. » Il ne dit pas que les bourreaux de Jésus sont innocents. Ils sont responsables de leurs péchés, mais en même temps, il dit que la crucifixion, le mal par excellence, faisait partie pleinement du plan souverain, du plan éternel du Dieu Tout-Puissant. Pensez à Job. Nous lisons dans son livre qu'il a vécu tragédie sur tragédie. D'abord, ses enfants meurent tous. Tous ses biens disparaissent et ensuite il perd sa santé. Pas une fois, Job ne dit « Regardez ces accidents qui m'arrivent ». Non, il ne parle pas d'accident ou de hasard. Il connaît son Dieu et il déclare « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom de l'Éternel soit béni ». Voilà la perspective biblique. Nous savons que derrière toutes ces tragédies, il y a certes l'œuvre de Satan. Mais nous relevons que rien ne pourrait se passer sans d'abord la permission de Dieu. Dieu a permis à Satan d'attaquer Job, et ensuite, et donc ultimement, Dieu est la cause du mal qui arrive à Job. Rien ne peut se passer, soit en bien, soit en mal, sans que Dieu ne soit en contrôle, sans que Dieu ne donne son accord, et dans ce que nous appelons la providence générale, nous voyons que le bien, comme le mal, touche tout le monde. Les chrétiens, comme les non-croyants, les riches, comme les pauvres, les parents, comme les enfants. Dieu envoie la pluie, le soleil ou la grêle, sur tous. Il accorde à certains la santé, à d'autres la maladie, qu'ils soient chrétiens ou non-chrétiens. Mais alors, en dehors de cette magnifique promesse de la vie éternelle que Dieu nous fait, qu'est-ce que le christianisme apporte de plus aux chrétiens s'ils doivent subir le même traitement que les non-chrétiens? Eh bien, l'apôtre Paul souligne encore un point important ici, une différence absolument fondamentale. Il écrit, je cite, « Toutes choses concourent, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein ». Il y a ici deux choses qui soulèvent la différence fondamentale qu'il y a entre un chrétien touché par l'épreuve et un non-chrétien touché par l'épreuve. La première différence, c'est la promesse que Dieu fait, cette promesse est donnée uniquement aux chrétiens. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La deuxième différence, c'est la promesse elle-même. Quoi qu'il nous arrive, tout est contrôlé par Dieu pour qu'il en sorte du bien pour nous. Tout est en vue de notre avantage. C'est Dieu lui-même qui le promet, même si on ne le voit pas toujours. D'ailleurs, on ne voit ce bien ou l'extension de ce bien que rarement pendant l'épreuve elle-même. Je me souviens, lorsque, il y a quelques années, j'ai entendu le témoignage de notre pasteur, qui était aux États-Unis, qui fut un pilote sur les porte-avions de la marine américaine. Il raconte une anecdote pour illustrer l'importance de croire les promesses de l'Écriture, même lorsqu'on ne les voit pas. Il parle d'un terme employé par les pilotes appelé « vertizo ». C'est un terme qui signifie que vous êtes dans un état total de désorientation. Cela se produit lorsque le pilote vole avec ses instruments et suite à un virage, le fluide à l'intérieur de l'oreille continue à tourner même après que l'avion se soit rétabli en position horizontale. Et bien que l'appareil vole tout droit et au niveau horizontal, le fluide dans l'oreille lui dit qu'il est toujours en train de tourner en rond. tout en lui dit « Tu tournes en rond, redresse l'appareil. » Mais ses instruments disent « Non, tu voles horizontalement et tu voles droit. » Donc malgré tout ce que vos émotions vous disent dans un tel moment, vous devez faire une chose extrêmement difficile. Fixez vos yeux sur les instruments et vous convaincre vous-même de les croire. Ainsi, vous évitez le pire. Croire aux instruments et en même temps ignorer ce que nous ressentons est une chose presque impossible dans l'adversité. Pourtant, il faut le faire. Et donc, c'est ce que Dieu nous demande de faire en tant que chrétiens. Lorsque les épreuves de la vie commencent à nous déchirer et que nos émotions crient en disant qu'il n'y a pas de raison valable pour expliquer telle ou telle tragédie qui survient dans notre vie et qu'il n'y a absolument rien de bon à nos yeux qui semble sortir de cette épreuve, c'est à ce moment-là que nous devons mettre notre confiance dans nos instruments et garder nos yeux fixés sur les promesses de l'Écriture. Mes instruments spirituels disent « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et par la foi, je vais le croire. » Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le livre de Elizabeth Elliot. Il y a eu de nombreux livres écrits autour de la vie de cette femme et des tragédies qui ont touché sa vie. D'abord, sa femme, son mari fut assassiné par les tribus Oka, qu'ils essayaient d'évangéliser. Puis après avoir travaillé pendant des mois à la traduction de la Bible dans le langage de ces tribus, non seulement son collaborateur pour la traduction fut tué lui aussi, mais toute la traduction fut volée et détruite. Humainement parlant, qu'est-ce qu'il peut y avoir de bon dans tout cela? Et elle écrit « Il ne me restait plus qu'à m'incliner avec la pensée que Dieu était son propre interprète de tous ces événements. » Dieu est son propre interprète de tous ces événements. Et parfois, et même souvent, nous ne voyons pas le bien qui peut ressortir d'une tragédie. Pourtant, Dieu l'a promis. Parfois, il arrive, après coup, que nous voyons le bien qui en ressort. Un autre ouvrage clé que je vous encourage à lire, si vous voulez être encouragé, c'est l'histoire de Corrie ten Boom. Dans son livre « La cachette », elle donne une description de comment sa famille, durant la dernière guerre mondiale, cachait les Juifs. C'était en Hollande. Un jour, les nazis sont arrivés chez eux. Ils ont découvert ce qu'ils faisaient. Et toute la famille a été envoyée dans les camps de concentration. Corrie était avec sa sœur Betsy, qui était une femme d'une grande foi. Elles furent déménagées dans un nouveau baraquement, le numéro 28. C'était une pièce assez grande. Il y avait des lits individuels. Ces lits étaient de longues plateformes en béton de chaque côté de la pièce, superposées les unes sur les autres. Corrie et Betsy devaient escalader trois plateformes avant d'arriver sur leur lit. Peu après que Corrie se soit allongée sur ce qu'on pourrait à peine appeler une couchette, elle poussa un cri d'horreur. Elle et sa sœur descendirent immédiatement de leur plateforme et coururent vers la fenêtre. Des puces, des centaines de puces partout. Betsy, ce lit est plein de puces. Comment pouvons-nous vivre dans un tel lieu? Comment et pourquoi? À ce moment-là, Corrie réalisa que sa sœur priait. Pour Betsy, la prière semblait être ce qui remplissait sa vie. Elle priait continuellement et Betsy dit à sa sœur, « Tu sais, je crois que nous devons remercier Dieu. » La Bible dit de le remercier en toutes choses, n'est-ce pas? Corrie explosa. « Quoi? Qu'est-ce que nous avons ici de si extraordinaire pour pouvoir dire merci à Dieu ?» Betsy prit sa sœur par la main et dit, « Corrie, nous avons été placés dans le même baraquement. » Alors Corrie lui serra la main et dit, « Oui, tu as raison. » Alors, elle remercia Dieu pour cela. Et puis Betsy continua, « Et puis nous avons cette Bible qu'ils n'ont pas trouvée lorsqu'ils nous ont amenés ici. » Alors, elle remercia Dieu pour la Bible. Mais comment pouvons-nous être reconnaissants pour les conditions pour lesquelles nous sommes ici? Nous sommes les unes sur les autres. Alors Betsy répliqua, « Nous sommes les unes sur les autres. Cela va nous permettre d'annoncer l'Évangile à beaucoup de ces femmes. » Alors, elle remercia Dieu pour cela. Puis alors qu'elle priait, Betsy se mit à remercier Dieu pour les puces. Là, Corrie ne put se contenir. « Une minute, Betsy. On ne va tout de même pas remercier Dieu pour les puces. » Mais Betsy continua, « Dieu nous dit de le remercier pour toutes choses. » Et elle cita Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors elles prièrent et elles remercièrent Dieu pour les puces. Alors, grande surprise, elles ont découvert que les gardes de la prison savaient qu'il y avait une colonie de puces dans le baraquement 28. Elles avaient une telle hantise de ces puces qu'elles ne rentraient jamais dans ces lieux. Ce qui a permis à Cory et Betsy d'avoir des études bibliques et des réunions de prière sans crainte d'être dérangées. Le résultat fut que de nombreuses prisonnières sont devenues chrétiennes. Tout cela grâce aux puces. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant, précisons que tout n'est pas bon en soi. Paul ici ne dit pas que tout est bon, car beaucoup de choses dans ce monde sont mauvaises. Les guerres, les maladies, les malformations d'enfants, les accidents. Mais la promesse de Dieu pour les chrétiens, c'est qu'il prendra toutes ces choses-là, tout ce mal, et il produira de tout cela quelque chose de bon pour nous. D'ailleurs, nous avons un autre témoignage dans l'Écriture qui démontre cela. Vous connaissez tous sans doute l'histoire de Joseph. Ses frères le vendent comme esclave. Il se retrouve dans une prison égyptienne à des centaines de kilomètres de chez lui. Qui aurait pensé à ce moment-là que quelques mois plus tard, il serait assis sur le trône comme premier ministre de la plus grande nation du monde de l'époque? Et quand ses frères, dans le besoin, se trouvent face à lui, souvenez-vous de ce qu'il leur a dit. Genèse 45, 4. Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être mené ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Au chapitre 50, verset 20, Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez médité, certes, de me faire du mal. Dieu a changé en bien ce mal pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. » Toutes choses, toutes concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a 2000 ans, Jésus, prééminent dans l'univers, dans l'histoire et dans l'Église, est venu dans des circonstances très difficiles. Pas de place pour Marie pour accoucher, pas de confort, pas d'amis proches, la menace de massacre d'innocents par le roi d'Égypte, mais une promesse extraordinaire. Matthieu 1, 20. Fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors notre réponse face aux difficultés tragiques, ça reste la foi. On met beaucoup d'importance dans nos églises sur l'importance d'être sauvé par la foi, n'est-ce pas? Par la foi seule. Mais on doit en mettre autant d'importance sur la marche par la foi et la foi seule. Et cette foi, Dieu nous demande, nous rappelle constamment, dire « Fais-moi confiance, j'ai fait des promesses, je t'en ai fait une ce soir. Je dis toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » As-tu le croire? Comme cette histoire que je vous ai un jour racontée, je crois ici, cet homme qui est au bord d'un précipice, et puis qui glisse, et qui, juste avant de s'écraser au pont du précipice, s'accroche à une branche. Et là, il tient, et puis il crie, « Il y a quelqu'un là-haut ? » Il y a un silence. Puis il demande à nouveau, « Il y a quelqu'un là-haut ? » Et là, il y a une voix qui dit, « Oui, il y a quelqu'un. Qui c'est ? C'est Dieu. Ah ! Aide-moi à sortir, sors-moi de là. » Et Dieu dit, « D'accord, lâche la branche. » Là, il y a un grand silence. Puis on entend, « Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre là-haut ? » N'est-ce pas un petit peu comment nous faisons face à cette situation? Face à la tragédie? On y croit, ces promesses de Dieu, puis quand ça nous tombe dessus? Ah oui, Dieu a dit ça, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose? Dieu nous dit non. Fais-moi confiance. Tu m'as fait confiance pour ton salut. Fais-moi confiance pour la vie qui est devant toi, je suis en contrôle. Toutes choses concourent au bien de ceux qui m'aiment. Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, lorsque tu nous as amenés dans ton royaume, sortis du royaume des ténèbres pour nous faire entrer dans le royaume de la lumière, tu n'as jamais dit que ce sera facile. En fait, tu as dit le contraire. Tu as dit celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tu as parlé des difficultés, des épreuves. Seigneur, la question n'est pas si nous allons en avoir, mais quand nous les aurons. Qu'est-ce que nous faisons avec? Seigneur notre Dieu, donne-nous de pouvoir mettre des racines profondes dans ta parole, dans une théologie qui est certaine, qui nous rappelle qui tu es, le Dieu souverain, qui nous laisse certes avec des questions, mais qui nous permet de mettre toute notre confiance dans un Dieu qui ne fait aucune erreur. Un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Un Dieu qui nous aime profondément. Comme ce texte que nous avons lu ce soir dans son contexte, qui nous rappelle que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alors Seigneur, permets-nous, à travers les épreuves et les tragédies, de grandir dans notre foi. Et qu'à la sortie, nous ayons non seulement plus de paix et de joie, mais tu seras glorifié. C'est en son nom que nous prions. Amen. Eh bien, je vous invite à vous lever. Nous allons chanter le cantique numéro 103, « Mon Jésus, je t'aime », pour nous préparer à la Sainte-Cène.